Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir et bienvenue à l'antenne du 93.1 pour une nouvelle édition de Version Originale. Je vous propose ce soir un voyage avec les mots, un voyage dans les mots. Nous partons à Madagascar. Que révèle le langage courant sur la richesse d'une culture, sur l'histoire d'un pays ? Johari Ravalosson, écrivain, traducteur, nous invite, nous lecteurs, auditeurs, à un voyage dans son pays à partir de 80 mots malagasy. 80 mots de Madagascar, c'est le titre du livre publié aux éditions L'Asiathèque. Nous en parlons dans quelques instants avec Johari Ravalosson, juste après la musique. La musique de Joël Rabesolo, le trio Joël Rabesolo. Le titre du morceau, c'est Katakatasi Paco Paco. Je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, on va parler donc de Madagascar avec Johari Ravalosson. Les éditions L'Asiathèque proposent la collection 80 mots du monde qui invite à un voyage dans un pays par les mots qui comptent dans les langues des femmes et des hommes qui y vivent. Vient de paraître 80 mots de Madagascar. L'auteur Johari Ravalosson choisit donc 80 termes représentatifs et les illustre par des anecdotes personnelles ou par des faits historiques pertinents. Je compte sur le génie des mots pour vous emporter, souligne-t-il. Bonsoir Johari Ravalosson.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Vous êtes donc né à Antananarivo. Vous êtes écrivain, traducteur et éditeur. On peut aussi ajouter philologue. Vous mettez en valeur les littératures et les arts du sud-ouest de l'océan Indien en publiant des livres souvent bilingues pour la jeunesse. Tribunal des cailloux est le titre de votre dernier roman, publié en 2024. Et là, aujourd'hui, donc, c'est 20 mots de Madagascar chez l'Asiathèque dont nous allons parler. Alors, la dramatique actualité, alors il y a beaucoup, bien sûr, je parle d'une sélection de mots que vous avez fait pour nous. Et là, il y a une actualité dramatique à Madagascar qui me porte à commencer par le mot Rivodosa, qui signifie cyclone. Donc, il y aura une pensée fraternelle pour les personnes qui ont péri en début de semaine à Madagascar lors du passage du cyclone Jezani. Vous le soulignez dans le livre que la saison cyclonique s'étend donc de fin novembre à avril. Il y a toujours une zone durement touchée dans l'année. Cette fois-ci, c'est cette zone, c'est la ville de Tomazina. Que pouvez-vous nous en dire en quelques mots?
Oui, merci beaucoup de votre invitation et merci de cette pensée aux gens qui ont subi le cyclone. J'ai gagné très récemment, notamment la ville de Tomazina, qui est la ville portuaire de Madagascar. C'est la deuxième ville et c'est pour ça que c'est vraiment très grave pour le pays, parce que c'est par là que tout nous arrive. Le cyclone est arrivé par là, mais c'est par là aussi que les bateaux nous emmènent tout ce qu'on reçoit de par le monde. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la saison cyclonique, c'est de novembre à avril. Et comme l'île est très large, très grande, il y a toujours une partie de l'île qui reçoit un gros cyclone dans l'année. Et cette année, c'est le cyclone est entré par la ville de Tomas avec des vents de 250 km/h. Et ça a détruit beaucoup, 80% la ville et beaucoup de choses tout autour d'un Tomas. Donc, c'est vraiment un coup dur pour Madagascar. Bon, déjà, on n'est pas très riche, mais là, on est par terre. Alors, merci de y avoir pensé.
Madagascar, donc, est une république depuis 1960. Alors, quand on lit le livre Johari Ravalosson, on pose la question, est-ce qu'il faut... Donc, il y a en page 29, vous parlez donc de Malagasy, population, langue de Madagascar. Alors, doit-on dire Malagasy ou Malgache?
En français officiel, enfin si on regarde les dictionnaires, notamment les dictionnaires de l'Académie ou les Littrés ou Larousse, c'est malgache qu'on dit. C'est malgache qui est marqué là. Cependant, avant la colonisation, il y avait plusieurs mots qui étaient en cours pour décrire la langue, pour décrire les personnes de Madagascar et tout ce qui se passe à Madagascar. Il y avait Madagascarois, il y avait Madeka, il y avait Malégas aussi. Mais en fait, le mot malgache est arrivé avec la colonisation. Et donc, depuis 1896, ce mot-là s'est installé. Et à l'indépendance également, le mot est conservé en France, puisque c'est un mot français. Ce n'est pas un mot malgache, c'est un mot français. Cependant, dans les... Il y a une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de manifestations sur les réseaux sociaux notamment, qui disaient que les Malagas ne pouvaient pas supporter ce mot, parce que non seulement c'est arrivé avec la colonisation, mais il y a ce côté très négatif, il y a mal et gâché, et qui ne correspond pas, qui ne plaît pas aux Malagas. Et donc il y a eu un mouvement pour dire il faut essayer d'imposer le mot malagas, donc c'est le mot de Madagascar, et c'est aussi le mot qui est utilisé dans les autres langues, notamment l'anglais. Et donc, pourquoi pas en français? Et c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement-là, et j'ai adhéré à ce mouvement-là de dire je vais utiliser maintenant, désormais, dorénavant, le mot malagas au lieu de malgache, parce que on subit tellement déjà de malheurs, on vient de parler du cyclone tout à l'heure, et si dire malagas fait du bien, donne du baume au cœur au malagas au lieu de malgache, ben je dis malagas. Donc depuis, moi je mets malagas dans ce que j'écris et dans ce que je parle en français.
Vous avez également sélectionné Johari Ravalosson le mot vanagasiana, que vous traduisez donc en page 53, que vous traduisez par malgachisation, et vous dites donc je fais partie de la génération malgachisée avec des cours tout en malagasy jusqu'en classe de seconde. À quoi renvoie l'idée de génération malgachisée? C'est celle qui est sortie de l'emprise de la colonisation?
Lorsqu'on dit sortir de la colonisation, il y a eu l'indépendance qui nous a été octroyée en 1960, comme à beaucoup de pays africains. Mais, comme je dis, c'est une indépendance qui a été octroyée parce que les gens qui ont lutté pour l'indépendance étaient tous morts en 60, parce qu'en 1947, il y a une grande rébellion à Madagascar et contre la colonisation, et ça a fait des dizaines de milliers de morts. Et en fait, l'indépendance a été octroyée à des gens qui sont survivants, qui ont accepté de collaborer avec la France. Et donc, il y a eu une deuxième lutte pour l'indépendance après l'indépendance. Et ça a eu lieu en 1972. Et ce que nous, on appelle la deuxième indépendance, et qui est plutôt la vraie. Et c'est à ce moment-là qu'on a demandé la malgacisation. La malgacisation, en fait, ça désigne deux choses. La première, c'est l'usage du malagas, de la langue malagas au pays. L'usage. Évidemment, on parle malagas dans la famille, mais dans l'administration, on continuait à parler français. À l'école, l'école était en français. Et donc, on a demandé l'usage de la langue. Enfin, on a exigé l'usage de la langue parce qu'il y a eu une sorte de révolution en mai 70 à Madagascar. Et la première demande des manifestants, c'était l'usage du malagas partout au Madagascar et aussi dans les écoles. La deuxième chose, c'est aussi la malagasisation des cadres, parce qu'on continuait à avoir des cadres français dans l'administration à l'époque. Et on demandait que ce soit des malagas qui tiennent ces postes désormais. Et la génération malagasisée, c'est cette génération-là, c'était ma génération en fait, j'avais 7 ans en 1970, donc c'était le début de l'école, et on a été reçus au malagas à l'école, on a fait tout le collège en malagas, mais quand on est arrivé au lycée en classe de seconde, en fait, les programmes n'étaient pas assez préparés, les profs n'étaient pas prêts à nous recevoir dans cette langue, dans la langue malagasse. Et notamment à l'université, et jusqu'à maintenant, les cours étaient en français. Et donc, ce qu'on est arrivé en seconde, on nous a dit, ben maintenant, il faut revenir au français, parce que sinon, vous n'allez pas faire d'études supérieures. Et c'est ça, la génération des malagasisés, c'est qu'on était un petit peu perdu lorsqu'il fallait passer le bac, parce qu'on a été élevé en malagasse, avec le français comme langue étrangère, qu'on parlait pas très bien, et il fallait se mettre très très vite au français pour pouvoir accéder aux études universitaires. Et du coup, ben, ça laissait pas mal de jeunes sur les carreaux à l'époque.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1. Je reçois donc au téléphone, nous sommes en lien avec Johari Ravalosson, qui publie aux éditions L'Asiathèque 80 mots de Madagascar. Continuons, si vous voulez bien, à parcourir votre livre. Donc, je m'arrête sur le mot Ravinala, qui signifie arbre du voyageur. En quoi cet arbre est-il important à Madagascar?
Cet arbre, le Ravinal, c'est une herbe géante. Hein. Les scientifiques le décrivent comme une herbe. Et elle pousse dès qu'il y a un peu d'eau. Et ce qui fait que elle pousse un peu partout, notamment sur la côte est qui est bien arrosée. C'est une sorte de palmier en éventail. Il est très caractéristique. On le reconnaît facilement, le ravinal. Et c'est un des symboles de Madagascar parce qu'il pousse partout où il y a un peu d'eau. Il pousse partout, et puis surtout avec cet arbre-là, sur la côte est notamment, sur toute la partie est de Madagascar, il sert à fabriquer les maisons. Les toits sont des feuilles de ravinal, les piliers des maisons, c'est les branches des ravinal, et les murs, c'est les feuilles qui sont tressées. Et donc, c'est un arbre avec lequel on peut fabriquer assez rapidement des maisons qui restent fragiles, bien entendu, parce qu'avec un cyclone qui a eu comme ça, il y a trois jours, ça fout par terre des maisons qu'on appelle des chanfalas. Falas, c'est le nom des matériaux issus du ravinal. Mais par contre, on en construit en 15 jours, on peut en reconstruire. Par contre, ça reste fragile. Un autre point important avec le ravinal, c'est que comme ça pousse facilement, lorsqu'il y a des déforestations ou des feux de forêt, c'est ce qui repousse en premier les ravinales. Et donc, on l'appelle donc les feux de la forêt à cause de ça. Mais des fois, c'est des forêts absentes, il ne reste plus que ça. Parce que comme il pousse facilement, ça reste vert et on croit qu'il reste de la forêt, mais en fait, il ne reste plus que ses feuilles. Des fois, ça cache la mise d'air, en fait. La terre qui devient, devient pauvre, mais le ravinal, il pousse toujours.
Joari Ravalosson, restons aussi sur deux termes, ça m'a beaucoup surpris en page 55, qui sont, c'est les mots « eni » et « tia », donc « eni » s'écrit « e-n-y » et « tia » t-s-i-a, qui signifie « oui, non ». Alors, voilà, oui. C'est intéressant, vous dites, voilà des mots qu'on utilise presque jamais, sauf lors d'un référendum. En dehors des périodes référendaires, personne ne dit oui ni ne dit non. On hoche la tête, on grommelle un « mm » en l'accentuant au début ou à la fin, selon le sens qu'on veut faire entendre, mais on ne dit jamais oui et non à Madagascar. Expliquez-nous ce qu'on dit à la place, pour quelles raisons on ne dit jamais ni oui ni non, et qu'est-ce que ça a comme effet sur la pensée, sur les sentiments des gens, que pouvez-vous nous en dire?
Alors, à Madagascar, les Malagas, on a les relations avec les personnes sont très très importantes. Et refuser quelque chose, c'est-à-dire dire non, est très très difficile. Parce que ça risque de nuire à la relation. Si quelqu'un vous demande quelque chose, c'est vraiment difficile de dire non. Et du coup, on n'utilise jamais le mot « si » qui veut dire non. Et donc, on cherche des prétextes pour dire non. Et pour refuser la chose, on dit demain ou on verra. C'est intéressant, mais il faut que je réfléchisse. Donc, dire si, c'est vraiment difficile. Et pourtant, c'est important de dire non parfois. Il y a Madhu Kuruma qui nous a fait un super roman dont le titre c'est Quand on refuse, on dit non. Et c'est important de pouvoir refuser. Et en fait, dans notre état d'esprit de ne jamais dire non, ça pose problème dans la réalisation des projets. Parce que si vous pensez vous être accordé avec quelqu'un qui ne vous a pas dit non, et pourtant il n'en pense pas moins, il n'est pas d'accord avec ce que vous proposez, et bien ça induit des espérances et des attentes qui seront déçues. Et donc, j'ai insisté là-dessus dans le livre pour dire que maintenant, peut-être, il faut dire non quand c'est vrai, quand c'est non, et oui quand c'est oui. C'est important d'être direct et franc.
Si vous mentionnez le fait que, alors dans le, quand vous parlez du terme boki, donc B-O-K-Y, qui signifie livre, en page 42, vous précisez le fait que l'activité solitaire de la lecture, effectivement, lire, c'est lire tout seul, mais vous précisez que c'est une activité solitaire qui est en opposition à la vie communautaire, c'est-à-dire le fait de lire, c'est presque se retirer de la lecture, c'est presque mal vu.
Oui. Alors, c'est en train de changer. Hein.
Ah.
Mais le fait est que les livres ne sont pas recettes à Madagascar. Dans une ville, dans la capitale à Madagascar, où il y a 3 millions d'habitants, il y a moins d'une dizaine de librairies. Il y a quelques bibliothèques. Et en fait, le livre, on ne lit pas beaucoup. Mais par contre, on fait des choses. Il y a par exemple un cercle de poètes dans chaque village presque. Il y a des cercles de poètes, mais là, ils se partagent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des réunions tous les premiers samedis du mois, par exemple, pour le parc Goulanassin dans les quartiers d'Antananarivo, et les gens y viennent et déclament leur poésie au milieu des autres. Ils lisent leurs nouvelles au milieu des autres. Et là, ça fait recette. Il y a du monde qui vient à ces réunions-là. Mais quand il s'agit de lire en solitaire, ben, il y en a moins. En fait, tant que c'est une activité collective, où les gens sont ensemble, ça marche. Mais lire quand on est tout seul, en fait, là, si vous promenez tout seul à la campagne, les gens ils demandent si vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tout seul? C'est vraiment contraire à la mentalité, quoi, d'être tout seul, alors que la lecture, c'est une activité vraiment solitaire. Mais c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des blogs de partage de lecture. Et je constate que, voilà, la lecture est en train de se développer quand même, mais ça reste, je vous dis, dans une ville de 3 millions d'habitants, moins de 10 librairies, c'est pas beaucoup.
Joari Ravalossan, puisque nous parlons de lecture, parlons également d'écriture. Est-ce qu'il y a donc une tradition d'écriture malgache dont vous vous réclamez?
Aligre FM 93.1.
Chaque auteur veut dépasser les traditions d'écriture des générations d'avant. C'est tout à fait normal qu'on cherche à évoluer et faire que ce que ne font pas les générations d'avant. D'ailleurs, il y a un proverbe au malagasy qui dit « Nyadal antwondain », ça veut dire « c'est les sots qui sont comme leur père ». Et donc, du coup, on cherche toujours à faire autre chose que ce qu'il y a avant nous. Cependant, il y a un poète qui s'appelle Jean-Joseph Rabé-Arrivé. C'était un poète qui vivait pendant la colonisation. Il est né en 1904, il est mort en 1937, et duquel je me réclame parce que, en fait, c'est le premier qui a écrit en français. À Madagascar. À Madagascar, donc, il y a deux littératures malagasy. Hein. Il y a ceux qui écrivent en malagasy, la plupart des auteurs, et quelques-uns, comme moi, qui écrivent en français. Jean-Joseph Rabé-Hervé, c'était le premier qui a écrit en français, et non seulement il a écrit en français, mais il produit aussi des livres bilingues, en français et en malagasy. Il fait des poèmes, et spécialistes de poésie universitaire ont étudié la génétique de ces poèmes, et on a pu voir, on peut voir publié sur le site du CNRS, hein, de l'UTEL, ces brouillons. Et en fait, il écrit côte à côte la version malagasy et la version française. Mais on ne sait pas trop avec quelle version ils commencent, mais ils travaillent l'un et l'autre en même temps. Et moi, je me considère un peu comme un héritier de Jean-Joseph Rabé-Hervé, parce que je parle malagasy, j'écris en malagasy, mais mes livres, mes textes, je les écris en français, et je m'aide du malgache pour donner un peu de sel de la langue malgache dans mon français. J'utilise beaucoup la langue malgache, qui est très, une langue très, très viagée. Et avec cette langue, j'essaie d'enrichir mon français. Et c'est pour ça que je me réclame de ce grand poète, Jean-Joseph Rabelaisé.
Puisque nous parlons donc de langue, le français et la langue malgache, comment voyez-vous cette question de la francophonie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut penser la francophonie en dehors du rapport colonisateur-colonisé?
Mais bien sûr. Moi, je parle avec des amis africains en français, avec vous. Et donc, voilà, c'est une grande ouverture. Mmh. C'est une grande ouverture, la francophonie. On peut parler aux Canadiens, aux Français de Louisiane, à toute l'Afrique et même à une partie de l'Asie. Donc, c'est important, ça. C'est important, cette ouverture au monde. Le problème avec le français, c'est quand ça devient une langue dominatrice. Mmh. Et c'est ce qui arrive dans les pays coloniaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'adopte pas la langue du colon. Et maintenant, c'est l'indépendance. Il faut donc du Fanagatine à Madagascar, mais il ne faut pas rester monolangue. Il y a beaucoup de pays qui ont plusieurs langues dans l'éducation et dans le fonctionnement. Rien qu'à côté de Madagascar, à l'île Maurice, ils ont plusieurs langues. L'anglais, c'est la langue administrative, mais quand ils parlent de littérature, c'est en français. Chez eux, ils parlent le créole et puis des fois même l'hindi, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Inde, qui sont mauriciens. Il y en a qui parlent chinois. Et donc, le problème n'est pas la francophonie. Le problème, c'est quand c'est une langue dominante qui écrase, quand le français devient dominant et qu'il écrase les autres langues et empêche toute ouverture des autres sans cette langue-là. Quand on a parlé de Fanagatine tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a fait un peu vite et donc du coup à l'université les profs n'étaient pas prêts à recevoir les étudiants dans la langue malaga. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. En fait, le problème c'est pas le français, c'est comment on l'acquiert et comment on développe aussi l'autre langue qui est sous la domination. Et rien n'empêche de penser le bilinguisme, même le trilinguisme, le plusieurs langues. Il y a plusieurs pays, comme ça, le Luxembourg, on a parlé de Maurice, mais l'Afrique du Sud aussi. Et les pays se développent. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est vous accueillez par exemple les enfants en classe et si vous les accueillez en français, ça renvoie en fait à une mauvaise image de soi aux enfants qui parlent malgache chez eux ou une autre langue africaine ou créole ou leur langue première. Mais comme on leur dit que ce n'est pas une langue suffisante pour accueillir des savoirs, ils se disent que en fait c'est une mauvaise langue. Et ça donne, ça fausse en fait toute l'éducation après. Tout ce qu'on conçoit avec sa langue, on croit que c'est pas bien. Et qu'il n'y a que l'autre langue qui est bien. Et du coup, ça fait des nœuds dans la tête. Hein. Et oui, la francophonie pour l'ouverture, mais il faut que les autres langues locales puissent être parlées, se développer, évoluer aussi.
80 mots de Madagascar, publié aux éditions L'Asiatèque. C'est le titre du livre de Johari Ravalosson, qui est en ligne avec nous, dans version originale sur Aligre FM 93.1. Pensez-vous, Johari Ravalosson, parlons de traduction, pensez-vous que les rapports entre les langues seront faits davantage, comment dire, donc d'intuition, de sens commun, de sens partagé, plutôt que de traduction intellectuelle et avec un sens précis. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, le traducteur?
Je n'ai pas très bien compris la question.
Non,
excusez-moi.
Est-ce que pour vous, effectivement, vous qui naviguez entre les deux langues, oui. Est-ce que pour vous, la traduction est davantage fait d'intuition, de sens commun, de sens partagé, plutôt que de traduction intellectuelle rigoureuse, précise?
Les deux, je pense. Mmh. Les deux. Moi, je traduis, par exemple, des romans malagas, qui sont en malagas, vers le français pour faire connaître des auteurs dignes d'être connus par le monde. Parce que c'est ça le problème des langues minorées. Hein. Vous écrivez en malagas, vous ne serez connu que dans l'île. Et peut-être dans une partie des Comores qui parlent aussi malagas, à Mayotte. Mais en fait, pour être reconnu à l'extérieur, il faut que vous soyez traduit. Et cette traduction-là, la traduction que moi je fais, j'essaie de garder un parfum du malagas dedans. Mmh. Je vais donner un exemple pour être précis. J'ai traduit par exemple un roman d'Emilson Daniel Ndemalal, un grand romancier de Madagascar, que j'ai étudié au lycée pour passer le bac. Il fait partie donc du programme pour passer le baccalauréat à Madagascar pour la matière de malagas. Il faut étudier deux romans de ce monsieur, un des malades. Donc un qui s'appelle Fufumbad. Fufumbad, si on le traduirait, ça donnerait « ma fiancée ». Donc là, c'est la traduction académique, comme vous dites, la deuxième façon là, de traduire, n'est-ce pas? Si on prend le dictionnaire, on essaie, on prend Fufumbad et coup, et ça donne « ma fiancée ». Cependant, je trouvais que cette traduction ne rend pas assez compte du livre, du contenu du livre, et ne donne pas l'impression que le malagas, quand il bat, ça lui fait quelque chose. Pas comme si on disait juste « ma fiancée ». Et du coup, j'ai cherché autre chose. Et là, je me suis servi vraiment du caractère agglutinant de la langue malagas. Ça veut dire qu'en fait, en malagas, on fait beaucoup de mots-valises, hein, avec deux morphèmes, deux mots, on peut en fabriquer un. Et quand les gens connaissent les deux mots, ben, le troisième que vous fabriquez, on comprend tout de suite de quoi vous voulez parler. Et si on dissèque donc Fufumbad, on parle de le fourn, le parfum, et vague, de femme, l'épouse. Et en fait, la fiancée en Madagascar, ça parle du parfum de femme ou du parfum de mari. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur la traduction. Et en plus, le roman, il parle aussi de l'amour du narrateur, et il l'évoque un peu comme quelque chose qui disparaît, qui réapparaît, un peu comme une odeur, un peu comme un parfum qu'on sent passer et qui s'en va. Et je voulais rappeler ça dans le titre, pas juste garder ma fiancée. Alors au départ, j'étais parti dans mon parfum de femme, c'était très poétique, mais les gens n'y comprenaient pas qu'est-ce qu'on voulait dire par là, s'ils ne sont pas mal gassophones. Et en fait, à la fin, j'ai trouvé le titre « Ma promise ». Et donc du coup, dans l'idée de « Ma promise », il y a cette promesse-là de la femme ou du mari qui va venir. Et en même temps, ça veut dire aussi « ma fiancée ». Et donc là, c'est l'intuition, c'est la deuxième, c'est le premier de la première
possibilité.
Voilà. Mmh. Et donc il faut les deux. Je travaille les deux en fait, et de façon aussi à garder toujours un peu le parfum de la langue originale dans la traduction.
J'aimerais aussi, Joari Rovalosson, qu'on s'arrête sur un autre terme. C'est le mot Fanan Tenana. Qui signifie espérance. C'est bien sûr qu'on parle d'un sentiment, mais vous dites que ce mot vient d'un geste précis qui consiste à lever la tête et regarder en l'air vers le ciel. C'est-à-dire que la traduction de ce mot-là, c'est ce geste, lever la tête et regarder en l'air vers le ciel, qui a espérance. Est-ce que vous pouvez nous le commenter un peu?
Oui, j'ai joué un peu sur deux termes là-dessus. Mais en fait, oui, il y a l'autre mot qui équivaut à manatène, au verbe manatène. Il y a le verbe nyanche qui dit lever la tête vraiment. Et les deux sont utilisés par équivalence. Lorsqu'on pense espoir, on lève la tête. Et je trouve que, et là encore, on joue sur les traductions. Qu'est-ce qu'on veut garder? Il y a ce geste simple, lorsqu'on va mal, on dit « lève la tête », on baisse la tête lorsqu'on va mal. Et pour s'en sortir, il faut d'abord faire le geste. On lève la tête et puis après, on commence à voir les choses autrement. Parce que souvent, en fait, les mauvaises choses qui nous arrivent, évidemment, il y a des choses qui sont mauvaises dans l'absolu, mais des fois, il y a surtout une façon de voir les choses. Lorsqu'on subit un coup dur, des fois, on n'arrive pas à voir autrement. Et je trouve que la langue qui rappelle ce geste qui dit « lève la tête », c'est le début de l'espoir, en fait. C'est le début de... Parce qu'on commence à voir les choses autrement. Et c'est important, je pense... je trouve que c'est génial. C'est pour ça que je parle de génie de la langue. Parce que dans les mots même, on trouve une façon de penser, une façon de voir les choses. Et c'est important.
Joël Ravalosson, c'est donc 80 mots. C'est par rapport aux tous les mots qu'on utilise à Madagascar, c'est quand même peu, mais en même temps, pour les sélectionner, ça fait quand même beaucoup. Pour finir, dites-moi comment est-ce que vous les avez choisis, ces 80 mots de Madagascar, j'imagine. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas pu mettre parce qu'ils résistaient à toute traduction, par exemple?
Non, c'est pas parce qu'ils résistaient au contraire, moi ça m'intéressait, ces mots-là qui résistaient aux traductions, pour essayer de donner justement une autre façon de voir les choses. Par exemple, le mot « Fandiapaleman ». Alors, le « Fandiapaleman », c'est un grand mot, mais en fait, ça veut dire la paix, tout simplement. Mais quand on le dissèque, en fait, on peut le disséquer et on peut distinguer dedans trois mots. Et en fait, ça veut dire le temps où on dort la nuit. Et en fait, c'est ça la vie naturelle. La vie naturelle, c'est on vit avec le jour. Et puis la nuit, on dort. Et sauf s'il y a la guerre. Et donc, c'est pas tellement quand ça résiste... à la traduction que je l'exclus. Au contraire, j'aime bien parler de ça, j'aime bien expliquer, voilà notre façon de voir de ce que c'est la paix, par exemple. La sélection, c'était plutôt... ça s'est fait assez naturellement. Hein. Au départ, en fait, j'ai fait des listes de mots importants à connaître un étranger viendrait à Madagascar, qu'est-ce qui serait bien qu'ils connaissent, qu'est-ce qui est important pour les Malagasques, que les autres connaissent d'eux. Donc j'ai fait une liste, mais en fait, j'ai eu du mal à suivre cette liste, parce qu'en traitant un mot, j'ai trouvé à l'intérieur un autre mot, ça m'a renvoyé un autre mot qu'il fallait aussi en parler. Et donc la sélection, c'était plutôt le jeu de l'écriture. Et en fin de compte, et ça m'a vraiment plu dans l'écriture de cet ouvrage, c'est que au départ, je me disais, oui, c'est une sorte d'encyclopédie de voyage qu'on me demande, donc j'ai fait cette liste de mots-là, mais comme j'ai pas suivi la liste, mais qu'un mot m'emmène à un autre, en fin de compte, j'ai trouvé un fil comme lorsque j'écris mes romans, je ne connais pas l'histoire du début à la fin, mais un film se dégage en fonction des mots utilisés. Et du coup, ça, j'ai du plaisir à écrire l'ouvrage en continu. Et même si du coup, je ne suis pas revenu à ma liste, mais qu'il y a quelque chose qui suit. L'écriture a suivi la pensée, en fait. Et on peut lire effectivement le livre en disant « je regarde les mots qui m'intéressent », mais on peut le lire aussi en entier, un peu comme un roman, parce que ça raconte une histoire. Et cette histoire-là, c'est le voyage, en fait. Et ce que j'aimerais que ce qu'on retienne, que les gens y retiennent, en fait, c'est en prenant le livre, ben, il part en voyage à Madagascar, mais avec les mots. Et un voyage, on commence par le début, et puis voilà, on arrive à la fin. Mais effectivement, on peut aussi sauter et chercher aussi les mots comment.
En couverture du livre, on peut lire donc le mot Ena, qui signifie souffle, donc qui désigne tout ce qui est vivant. Donc merci, Joye Rava Alosson, 80 mots de Madagascar. C'est publié aux éditions L'Asiatèque. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Merci.
Bonne soirée. Vous êtes bien sûr à Ligre FM 93.1 dans version originale. Le temps d'écouter quelques notes de musique et on conclut notre émission de ce soir.
Long zingi fano recto kanga zao zema to kanga fasa manden raske malokane tisa noza komantan ya lafanga dala pita minoza fasi lafanga acharanga no for me baladanga lohana ambaraza heza tanti ano rofanga be andi fima ni nai mangevano va afalenga tanki lana vumfo marura ka avita ni si changano nangara tino lufa ifano recfo. And if you mind, I may have no. For a falling at the killer, no phone for Marurata Avita, you sit down at no. Nakaratino Lufa, if I know it for Yap. Equana, my tita fatita bangatikas and the Yap. Sacha no Yapo. Equana, my tita fatita bangatikas and the Yap. Andoreki angano yu mama za hu papa ke jan bala za hu baby za mesu papa fisaranga za tar nanding arti hitwaka simle faditar mazut mamin kapwaka baby za wa meza fatu kisanga fako fia dananga na tok fena vu kisanga masu andwa mek bala mpye u kintanga enon tanga na zetan kwa cheka miak pintanga andi fi mandina imange vando va afalenge tenkila na vumfo marurata avita nisi tangano nangaratinu lufa ifano rekfo. And if you mind, I may never know. For a falling at the killer, no phone for Marurata Avita, you sit down at no. I got a tin of the fire for Yap. Equana, my tita fatita bangatikas and the Yap. Such a no Yap. Equana, my tita fatita bangatikas and the Yap. Kwana umadita fatita bangatika zandi ya fiyaku. Sacha no tiyako. Kwana umadita fatita bangatika zandi ya fiyaku.
La musique de Faez Tokana sur Aligre FM 93.1. Vous êtes dans version originale. C'était encore des mots de Madagascar pour poursuivre à la suite de l'entretien avec Joari Ravalosson qui publie donc aux éditions L'Asiatèque 80 mots de Madagascar. C'est le temps de se séparer, une version plus courte aujourd'hui dans version originale. Je vous remercie, amis auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Merci à Armand Gury qui était à la technique ce soir. Dans un instant, c'est Dancehall Reggae Vibes et un peu plus tard, 22h30, c'est Audiométrique. Passez une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine à l'antenne d'Aligre FM. Je vous retrouve samedi prochain, 19h, pour version originale. À bientôt. Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon-Émile.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.